Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Métropolez-vous. Nous allons poursuivre nos émissions de découverte des 37 communes de la métropole toulousaine. Ce cycle a été inauguré par trois émissions consacrées à Blagnac et c'est Flourens qui va prendre la suite aujourd'hui. Une commune située à l'est de la métropole, certainement pas la plus connue, en tout cas bien moins que celle de Blagnac comme vous pouvez l'imaginer. N'allez pas croire cependant que ce déficit de notoriété va de pair avec un intérêt moindre. L'histoire, le patrimoine, le territoire et l'économie de Flourens présentent aussi des aspects qui méritent d'être mieux connus des citoyens métropolitains. Et c'est tout le but de cette série d'émissions. Vous allez découvrir, en même temps que moi, que les communes de la périphérie la plus rurale de la métropole ont parfois des facettes inattendues, Flourens étant l'une d'entre elles. Premier volet de ces découvertes à venir, le présent numéro qui va être dédié à l'histoire et au patrimoine de Flourens. Pour nous guider sur les chemins de l'histoire et du patrimoine de Flourens, nous accueillons dans le studio de Radio Présence deux invités, deux érudits qui ont bien voulu partager leurs connaissances avec nous, Brigitte Tissier et Francis Colombiès. Ils sont membres de l'association Florus, Brigitte Tissier en étant l'archiviste et Francis Colombiès le président. Bienvenue aussi à tous les deux, merci d'avoir répondu présent. Votre association, comme son nom le laisse un peu entendre, est basée à Flourens. Et pour commencer, je vais vous demander bien sûr de la présenter à nos auditeurs, quels sont tout simplement sa raison d'être et ses objectifs.
Alors Florus s'intitule aussi « Histoire et patrimoine de Flourens ». Donc c'est une association qui s'est créée en 2002-2003. Et donc le but c'est de faire des recherches et de faire connaître un peu l'histoire et le patrimoine de notre commune. Et faire quelques animations aussi sur l'année pour que tout ce qu'on découvre puisse être connu par l'ensemble de la population.
Ce qui est important pour nous, effectivement, c'est de créer du lien entre les habitants, parce qu'en fait, Flourens, c'est une commune récente, qui s'est développée récemment dans la périphérie toulousaine, avec donc un support très ancien et des nouveaux arrivants. Donc, c'était important pour nous aussi de créer un lien entre les habitants et que Flourens soit un village actif et vivant.
D'autant plus que, comme d'autres communes de la périphérie toulousaine, on peut imaginer que Flourens, en tout cas sa population, va encore se développer dans les années à venir.
C'est possible, oui. Je pense, oui. Après, nous ne sommes pas des historiens, nous sommes surtout des passionnés d'histoire et de patrimoine. Et surtout, on aime bien faire des recherches dans les archives départementales, sur Internet, en faisant attention aussi de trouver de bonnes ressources. Voilà, donc tout ça, c'est notre travail quotidien, je dirais. Et puis surtout, on a commencé à interviewer les anciens du village, ce qui est très important parce qu'aujourd'hui, la plupart des anciens sont décédés. Et aujourd'hui, on a un témoignage vivant et audio qui fait qu'on a pu démarrer à partir de témoignages bien précis sur la vie du village.
Oui, alors je parlais tout à l'heure, je disais que Brigitte Tissier était l'archiviste de l'association, même si je crois qu'elle n'aime pas trop ce mot. Ça veut dire qu'aussi vous collectez, je suppose, auprès de ces anciens, leurs souvenirs, évidemment leur mémoire vive, mais aussi peut-être des photos, des documents qu'ils ont chez eux et qui pourraient disparaître.
Oui, ça a été le début de notre recherche, mais ce n'était pas évident parce que Flourens, en fait, ce n'est pas une grande commune. Et à l'époque, c'était des gens, ils habitaient dans les fermes, ils ne faisaient pas des photos comme on fait aujourd'hui. Donc
c'est difficile de collecter. On a essayé au début justement de faire des appels pour collecter ce genre de documents iconographiques. Mais comme le disait Francis, il n'y a pas beaucoup de ressources de ce côté-là.
Ouais, mais ce qui est important, c'est quand même aussi de rencontrer les gens, les anciens quand même, qui nous ont dit beaucoup de choses et aussi un peu, on en reparlera, mais il y a une personne qui n'avait jamais parlé de ce qui s'était passé durant la dernière guerre mondiale.
Il y a des choses qui ne sortent que maintenant. Et merci pour cette présentation de l'association Florus et des actions qu'elle mène. Nous y reviendrons sans doute au cours de cette émission. Lorsque nous allons nous plonger dans l'histoire de Flourens et partir à la découverte de son patrimoine, pour l'instant, c'est l'actualité métropolitaine qui va prendre le relais. On retrouve tout de suite Corinne Saint-Félix et son flash d'information métropolitaine hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. On ouvre ce flash avec une information de première importance. Un avis favorable a été donné pour la troisième ligne de métro à Toulouse.
Effectivement, Eric, la commission d'enquête a donné à l'unanimité un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de la troisième ligne de métro dans la métropole toulousaine. Cette ligne de métro relierait Colomiers-Gare à La Bège, La Cadenne et passerait par 5 communes différentes. Blagnac, Colomiers, La Bège, Ramonville-Saint-Agne et Toulouse. Sur son parcours se trouveraient de nombreux pôles d'emploi avec 3 sites majeurs d'Airbus et les sites d'ATR, d'AER Socata, Safran et Thales. Si les autorisations environnementales sont obtenues, les travaux pourraient commencer en 2021 et le métro serait opérationnel en 2025. Dans le rapport d'enquête, les avantages et les inconvénients de cette troisième ligne sont mis en exergue. Estimation des coûts, 2,67 milliards d'euros.
Autre information importante pour les citoyens de la grande agglomération toulousaine, le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi porté par Toulouse Métropole en partenariat avec la communauté d'agglomération du Sicoval, lance un appel à projet jusqu'au 4 novembre.
Et cet appel à projet concerne l'axe 3 du programme opérationnel national lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion. Si vous avez un projet à proposer, il devra s'inscrire dans l'un des 3 objectifs suivants. Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la personne, mobiliser des employeurs et des entreprises dans les parcours d'insertion et développer les projets de coordination et d'animation de l'offre en faveur de l'insertion et de l'économie sociale et solidaire. Les actions présentées dans votre projet devront se réaliser sur une durée d'un an et demi maximum et ce, dans les limites de la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2020. Cette opération étant cofinancée par du Fonds social européen, les candidats doivent formuler leur réponse en utilisant l'outil spécifique de demande de subvention en ligne. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 4 novembre.
Et puis la 13e édition du Marathon international de Toulouse Métropole se tenait ce week-end. Elle a malheureusement été marquée par un drame, Corinne.
Oui, une course qui a été endeuillée par le décès d'un athlète âgé de 20 ans et ce malgré l'intervention immédiate des secours. Côté résultat, le marathon international a été remporté par le coureur kényan Shumbla Zablon qui finit tout seul en 2h10 minutes 38 secondes. Il bat ainsi le record détenu par Benjamin Bitok depuis 2013. Chez les féminines, la tenante du titre, l'éthiopienne Chietu Negasa, gagne en 2h34 minutes et 46 secondes. Vous pouvez bien sûr vivre ou revivre ces courses sur le site internet consacré au marathon de Toulouse. Une section Phototech et Vidéothèque vous attend. Vous pouvez aussi commencer votre entraînement pour l'année prochaine.
Le flash d'information métropolitaine hebdomadaire de Corinne Saint-Félix, Brigitte Tissier, Francis Colombiès. Est-ce que les citoyens métropolitains que vous êtes souhaitent réagir à une des informations ou aux informations que vous venez d'entendre ?
On est toujours intéressé par ces informations-là, mais je réagirai surtout par rapport au marathon. C'est vrai qu'on ne peut que regretter, c'est une mauvaise nouvelle. Malheureusement, ça arrive assez souvent aussi sur des parcours comme ça. Mais je dirais que bon, il y a tout ce résultat. Ce résultat, il arrive justement grâce à tout ce travail qui est en amont, justement par tous les gens qui participent. Notamment, bon, moi je suis bénévole depuis 9 ans. Et donc, on est 1300 bénévoles pour ce marathon. Donc, je sais que ça a été difficile de trouver, d'arriver à ce chiffre au dernier moment, mais je pense que c'est intéressant. Mais il y a tout ce gros travail fait par beaucoup de gens de la Toulouse Métropole qui acceptent de consacrer un dimanche pour cette belle opération.
Eh bien, après l'actualité de la métropole toulousaine, retour à notre sujet du jour, l'histoire et le patrimoine de Florence.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous. Métropole et vous, la suite avec nos invités Brigitte Tissier et François Colombiès, archivistes et présidents de l'association Florus, basée à Florence. J'avais commencé en posant la même question concernant la commune de Blagnac. Je vais la reposer pour Florence. Quelle est l'étymologie du nom Florence? Est-ce qu'on connaît son origine et peut-être même la date à laquelle la commune a pris ce nom pour la première fois?
Alors là, non. On ne connaît pas ces dates exactes, hein, parce que ça remonte assez loin. Mais bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Florence a une terminaison en ens. Et souvent, ces terminaisons en ens dans la région, c'est surtout d'origine wisigothe. Et donc, cette terminaison signifie lieu où habitait un certain personnage. On pense que ses origines viendraient de là. C'est comme les communes qui se terminent en Ac, hein, Blagnac, c'est aussi la terminaison en Ac signifie ici le lieu de certaines personnes. Alors nous, on s'appelle Florus, justement parce qu'on pense que Florence vient du lieu où habitait un certain Florus. Florus a existé au IIIe siècle. Alors voilà, on est à la recherche de Florus.
Donc l'étymologie, ce serait ça, ce serait le lieu où habitait, ou en tout cas, où était propriétaire un certain Florus.
Ouais. Florus, voilà. Ça peut être aussi un lieu où il peut y avoir...
Des fleurs, pourquoi pas. Hein, bon, voilà, effectivement. Bon, il y a d'autres noms de communes, de villages en France qui commencent par Flore ou Flour quelque chose.
Voilà, c'est ça.
Alors, on ne sait pas à quel moment exactement la commune prend ce nom. En revanche, est-ce que l'on sait... À quand remontent les premières traces avérées de présence humaine sur la commune? Est-ce que ça remonte à l'époque gallo-romaine? Est-ce qu'on arrive à remonter plus loin, plus en amont?
Il faut préciser quand même que notre association, c'est pas vraiment une association d'historiens professionnels. On n'est pas à la hauteur de Blagnac, très certainement, sur ce sujet-là. Par contre, nous faisons des recherches dans les archives, dans les textes anciens, mais celle-ci de façon ponctuelle, en fonction des sollicitations, en fonction des centres d'intérêt que l'association rencontre. Donc notre connaissance historique est très mitée, en fait. Hein, voilà. Et pour ce qui est des travaux très très anciens, on est bien sûr un peu gêné par la paléographie. Hein, on n'a pas forcément accès de façon très très facile aux textes anciens. Alors pour ce qui est de l'habitat ancien, on remonte, bon, ça la période gallo-romaine, ça c'est certain, parce que bon, on connaît tous les travaux de l'abbé Bacrabert, qui a vraiment été très...
Qui a été un curé de Florence.
Il a été un curé de Florence.
Dans les années
60. Florence et Fonsegrive, il était curé de paroisse.
D'accord. Et il était archéologue à 16 heures.
Peut-être
plus qu'à 16 heures même.
Ouais.
D'ailleurs, on nous a rapporté que dès qu'il savait qu'un chantier de fouilles se présentait quelque part, avec sa mobilette, là, il partait
sur
le chantier. Et que les archéologues étaient vraiment inquiet de le voir arriver parce que
il voulait savoir.
Et en fait, tous ces vestiges, tout ce qu'il a pu trouver, et puis après aussi, même un peu l'histoire un peu du monde rural, il les expose justement. Il a créé le musée, l'espace muséographique de l'Institut catholique. Et c'est vraiment un musée très riche. Oui. Et c'est là où on peut trouver les vestiges même de Florence.
Alors, les vestiges trouvés à Florence, qu'on se mette bien d'accord, ce ne sont pas des vestiges de construction d'époque gallo-romaine, ce sont plutôt des poteries.
Des débris de poterie, des trucs comme ça. En fait, on peut trouver toutes ces informations dans l'ouvrage de Georges Bacrabert qui s'appelle « La céramique toulousaine à travers les siècles ». C'est un ouvrage de 2001.
Ouvrage de référence, donc. Voilà. Alors, époque gallo-romaine, des vestiges, des poteries, des objets. En revanche, après, quelles vont être les époques marquantes pour le territoire de la commune, pour l'histoire de la commune? On passe à quoi après? C'est le Moyen-Âge?
Voilà, le Moyen-Âge. Alors là, il y a des traces vraiment tangibles, puisqu'à Florence, il y a eu deux campagnes de fouilles. À l'occasion de la construction de deux tranches de lotissement. Donc le premier chantier, c'était en 2003, et le second en 2013. Et donc c'est l'INRAP qui a fait les recherches. Et là ont été trouvés des silos à grains remontant au XIIIe siècle, un four, enfin deux fours même, dont un four tuilier, donc qui laissait penser que là se fabriquaient des briques pour la construction d'un habitat autour du site. Et puis aussi deux souterrains qui ont été trouvés, peut-être sont-ils à raccorder, hein, mais par contre l'INRAP ne donne pas de datation précise, mais l'indice qu'on a trouvé dans ces souterrains, c'est une mesure qui s'appelle la canne toulousaine, qui mesure un petit peu moins de 2 mètres, et qui n'a été utilisée à Toulouse qu'au XVe siècle. Voilà, donc on ne sait pas si le souterrain était antérieur à ça.
Mais au moins de cette époque. Bon, voilà, donc on trouve fin du Moyen-Âge, donc, si je comprends bien, les traces les plus anciennes. Après, on va arriver à quoi, les périodes marquantes? Ça va être la Révolution française?
Alors, sous l'Ancien Régime, ce qu'on peut dire, c'est que Florence faisait partie de la viguerie de Toulouse, comme la commune voisine qui s'appelle Pêcheriol. Et cette commune a fusionné avec Florence par ordonnance du 7 septembre 1847. Déjà, on a ces informations. Voilà. Après, au XVIe siècle, je pense qu'on trouve aussi sur la commune la culture du pastel. Donc, on était près de Toulouse.
L'est de Toulouse, voilà. On trouve ça assez souvent.
Voilà, cet or bleu a fait un peu aussi la richesse de Toulouse, mais de Florence aussi. Donc, justement, sur Florence, on a trouvé un document qui disait qu'un riche propriétaire pastelier, Lance Foch, qui était aussi capitoul, possédait une bâtisse bien précise avec de nombreuses terres cultivées sur Florence, comme à Mons, Drémy-Lafage et même jusqu'à Bazièges.
Donc, avec peut-être la présence d'un moulin pastelier aussi, parce que juste à côté de cette demeure qui s'appelle Lance Foch et qui est aussi un lieu-dit, juste à côté, un autre lieu-dit indique le nom de Moulin.
Moulin.
Et en fait, ce qu'on peut dire aussi de Lance Foch, quand même, c'était un personnage important justement pour l'histoire du pastel, puisque c'est lui qui a été un premier à commercialiser le pastel vers Bordeaux et vers l'Angleterre, mais aussi vers l'Espagne. Donc c'était un propriétaire de pastelier qui a été bien connu sur la région.
On reviendra tout à l'heure sur les personnalités qui ont marqué l'histoire de la commune, dont doit faire partie ce Lance Foch. Qu'est-ce qui se passe à Florence au moment de la Révolution et plus tard ? Sous l'occupation, est-ce qu'il y a des faits de résistance, par exemple, des choses comme ça?
Alors, sous la Révolution, bon, on n'a pas trop d'informations. Ce que l'on sait, c'est que, justement, c'est la chapelle de la Madeleine, là, qui était l'ancienne église de Pêcheriol. Ce qu'on sait, c'est que toute l'argenterie et une des cloches furent données à la République pour aider la nation le 20 de l'an 2, ce qui correspond en février 1794.
14.
Voilà, pour la Révolution, et on n'en a pas,
pas d'autres traces pour l'instant.
Nous n'avons pas du tout creusé cette période-là de l'histoire. On n'en a pas encore eu l'occasion, mais ça viendra.
En revanche, je crois, l'occupation, la résistance, il s'est passé des choses sur le territoire de la commune de Florence.
Oui. Alors là, justement, à l'occasion d'une veillée que l'on organise, comme je vous disais tout à l'heure, sur Florence, donc on avait fait une veillée Florence sous l'occupation. On avait fait une exposition et on a une personne qui est décédée
depuis,
Maurice Algans, qui était ancien président des anciens combattants, a pu exprimer pour la première fois qu'il a existé, il y a eu de la résistance à Florence pendant cette guerre, et donc de la résistance à Florence dans les environs, avec le groupe Sirocco. Donc c'était des combattants de 14, 18 et de 39-40 qui, en lien avec l'officiel Armand Pinardon, ont créé ce groupe qui consistait à réceptionner, à camoufler et distribuer les armes parachutées. Donc après le parachutage dans la vallée de l'Ers, ils cachaient les armes en faisant des gerbiers dans les bois de Saint-Jory de Roquetaillade et ils les déposaient dans l'église de Montoriol. Aujourd'hui, elle fait partie de Drémy-Lafage. Donc c'est dans le dépositaire, en accord justement avec le prêtre de l'époque, Paul Lasserre. Les Allemands n'ont jamais pu découvrir cette cachette. Et les résistants venaient chercher dans les armes et les munitions à Florence et les Allemands pensaient que les résistants toulousains s'approvisionner auprès des maquis de la Montagne Noire. Voilà, donc c'est une histoire aussi à connaître.
Alors j'en reviens plutôt aux personnalités historiques, aux personnalités qui ont marqué l'histoire de la commune. On a déjà parlé de Lance Foch, donc ce capitoul. Et pastelier.
Propriétaire pastelier.
Oui. On a parlé de cet abbé archéologue, rappelez-nous son nom.
Georges Bacraber.
Pas facile à retenir. Et puis alors, je crois qu'il y a un autre personnage tout à fait étonnant, qui était à la fois un élu et pas n'importe lequel, vous allez nous expliquer, et qui était en même temps caricaturiste. Alors qui est ce monsieur?
Oui, alors il s'agit de Camille Ournac, qui a été un personnage important pour Toulouse, puisqu'il a été maire de Toulouse entre 1888 et 1892. Puis il a été président du Conseil général et enfin sénateur jusqu'à 1820. Il est décédé en 1924. Et donc cet homme politique avait fait des études d'art avec son frère d'ailleurs et tous les deux étaient caricaturistes. Et il signait ses caricatures sous le pseudonyme Camille. Alors K majuscule tiré et plus loin MI2L. Et alors le lien avec Florence, c'est que la fille de ce Camille Ournac a été propriétaire sur la commune de Florence. Donc c'était une grande demeure sur le lieu dit Cisarole. Et elle a fait don à la commune de deux pièces importantes qui se trouvent actuellement dans la salle du conseil municipal. Il s'agit d'un buste en marbre de Camille Ornac, son père donc, et d'un tableau, un grand tableau, qui rentrait très bien sur le fond de la salle, un mur en brique, et qui représente l'entrée de Louis XI dans la ville de Toulouse, au milieu du XVe siècle, et qui reçoit des capitouls, les clés de la ville. Donc on voit les capitouls qui apportent les clés sur un coussin et qui font face au roi. Ces capitouls, en réalité, portent les traits des édiles de l'époque, et en particulier, donc, au bon milieu, Camille Ornac. Alors, on ne connaît pas grand-chose de ce tableau qui serait l'œuvre d'un certain Roucoul. Et en réalité, Camille Ornac était maire au moment où la salle des illustres a été rénovée. Et il a souhaité que cette salle soit décorée, justement, de tableaux ou d'œuvres d'art d'artistes locaux. Et un concours a été lancé auprès d'artistes pour présenter des tableaux représentant des événements importants de la cité. Alors ce tableau, apparemment, n'a pas été retenu puisqu'il n'est pas dans la salle des illustres. Donc on suppose qu'il a été offert par l'artiste à Camille Ornac, qui l'aurait donc après cédé à sa fille.
Et donc il est maintenant à la mairie de Florence.
Et voilà. Maintenant, donc, ce tableau est à la mairie de Florence.
Alors, je voudrais qu'on parle un peu donc, du patrimoine de la commune. Bon, je suppose qu'en premier lieu, il y a une église. C'est toujours ce qui a le premier élément patrimonial dans un village. Comment s'appelle cette église à Florence et qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Alors, l'église paroissiale donc, de Florence est dédiée à Saint-Martin. Comme je vous disais tout à l'heure, la date que l'on connaît la plus éloignée de 1560, justement due aux incendies
des guerres de religion.
Puisqu'en fait, Florence se trouvait sur le foyer des protestants était à Caraman et Lavaur, et donc comme ils voulaient arriver à Toulouse, nous on était vraiment
entre deux feux,
sur le passage. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut savoir. Par contre, on a trouvé un document récemment, de 1766, d'une lettre du curé de l'époque, qui s'appelle Vidal Capoul, qu'il adresse à l'évêque de Toulouse pour qu'il accepte les nouveaux statuts de la confrérie de Saint-Prime et Saint-Félicien, qui existait 200 ans auparavant. Donc, ce qui nous suppose qu'en 1560, il y avait donc une confrérie qui paraissait importante, puisque, en fait, dans ce document-là, on a les statuts de la confrérie. Et il est précisé aussi qu'une foule venait régulièrement tous les ans, justement, puisque Saint-Prime et Saint-Félicien sont des saints martyrs du début du 3e ou 4e siècle. La dévotion était de soigner la maladie des yeux. Et donc, il y avait tous les ans une grande foule qui venait à cette période, enfin, le deuxième dimanche de juin, pour vénérer les saints, puisque dans cette église, on a le reliquaire avec des Saint-Prime ou Saint-Félicien. Et on a une petite statuette aussi de Saint-Prime, ce qui nous fait supposer que vraiment cette église était dédiée à Saint-Prime et Saint-Félicien. Et en plus, ça correspond, la date de ces saints correspond justement à l'ancienne fête votive du village, qui est le deuxième dimanche de juin.
Alors il y a un autre élément un peu particulier sur la commune, c'est pas un sketch de Bourville, mais ça a trait à l'eau ferrugineuse, alors expliquez-moi pourquoi, même si c'est révolu aujourd'hui cette affaire.
Oui, alors sur la commune en fait, on a des traces de nombreuses sources qui sont plus ou moins taries maintenant. En particulier, il y avait sur une propriété appartenant à un certain Célestin Lefebvre, au début du XIXe siècle, il y avait une source d'eau ferrugineuse. Alors, ce Célestin Lefebvre a fait analyser par un médecin en 1824 cette source. Donc nous avons la notice qui est très détaillée avec toute la composition chimique, avec toutes les vertus curatives de cette eau. Et nous savons aussi que le propriétaire avait fait embouteiller cette eau qui était acheminée jusqu'à Toulouse. Et donc il avait fait aussi construire sur sa propriété une gloriette où les dames, surtout parce que c'était, paraît-il, une eau qui était très très utile aux dames lorsqu'elles avaient des faiblesses. Donc les dames venaient consommer de cette eau et se revigorer. Et ça a donné un petit peu aussi à ce lieu cet aspect curatif, puisque cette demeure a été détruite et en 1887 a été construit le château actuel, qui est un château d'un tout autre style. Et ce château de Péchoriol a été un sanatorium en 1936. Voilà, après il a été une école ménagère, et puis il est revenu maintenant à la propriété privée.
C'était aussi une école d'ingénieurs.
Une école d'ingénieurs aussi, hein, qui est partie après à la Bège.
Et aujourd'hui, ce château est habité par un particulier.
Par un particulier, oui.
Donc il n'est pas visitable.
Il n'est pas visitable. Non.
Bien entendu. Et bien, nous allons
mais on le voit de très loin.
Oui, parce qu'il est sur un monticule.
Il est sur un monticule, on arrive de voir depuis Rangueil.
Avec quatre tours très pointues, très hautes.
Nous devons conclure ce numéro de Métropole et vous. Il me reste à vous remercier l'un et l'autre, Brigitte Tissier et Francis Colombiès, d'y avoir participé et de nous avoir apporté vos lumières sur l'histoire et le patrimoine de Florins, cette commune, je le rappelle, qui se trouve à l'est de la métropole toulousaine, que vous contribuez à mieux faire connaître et à mettre en valeur à travers les actions de Florus, l'association à laquelle vous appartenez tous les deux. J'espère en tout cas que cette émission ira aussi contribuer à sa manière. Pour ceux de nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur Florus et ses initiatives, ses actions, et pourquoi pas adhérer à l'association, je les invite à consulter son site internet en se connectant à l'adresse www.florus-florins.org. Brigitte Tissier et Francis Colombier seront de retour la semaine prochaine dans ce studio, parce que nous n'en avons pas terminé avec Florins. Un second volet va lui être consacré, et il le sera, à la découverte de son territoire et de ses activités économiques. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. Rendez-vous donc la semaine prochaine à la même heure, et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.